Bip Radio, la radio qui aime trop, les keufs, les schmitts et la volaille. www.libradio.org.
On se retrouve donc en direct depuis la place de Châteaubriant au Paquis pour le festival Châteaubriant. William vous en a assez parlé, Kramps vous en a assez parlé. Moi je vais vous parler aujourd'hui de la quadrature du net. La quadrature du net et notamment de son action en justice, de son action de groupe en justice contre les GAFAM. On va commencer, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que la quadrature du net. Il s'agit donc d'une association française qui défend nos droits et nos libertés fondamentales à l'ère du numérique et elle propose des alternatives pour un internet libre, décentralisé et émancipateur. On a déjà essayé avec mes petits camarades et de la crypto-party et de l'aimant libre de faire passer le message, de faire comprendre à quel point il est essentiel, tout comme il est essentiel de bien se nourrir, il est essentiel d'avoir un comportement correct, responsable sur Internet, tout en sachant l'importance que tend à prendre Internet sur nos vies. Donc voilà, la Quadrature, une association française, certains parlent même d'un lobby pour un Internet libre, qui agit en France essentiellement, mais ils sont extrêmement calés. Donc si vous voulez aller vous renseigner, vous les contacter, leur site internet c'est quadrature.net. Et là vous trouverez absolument toutes les informations. Tout le site internet a été traduit en anglais aussi, donc voilà, faites passer. Et donc cette fameuse association de défense des libertés sur internet lance une action de groupe contre les GAFAM. Les GAFAM, pour ceux qui n'auraient pas suivi nos précédentes rubriques, il s'agit d'un acronyme qui regroupe les 5 plus grandes entreprises en lien direct avec le monde du numérique, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et donc la quadrature du net a voulu faire une action de groupe contre ces différentes entreprises. Alors qu'est-ce que ça veut dire action de groupe? C'est une action en justice. Et pour ça, la Quadrature a mis en place un site internet duquel je vais vous faire lecture et qui va vous expliquer pourquoi ils ont lancé ce projet. Alors, les GAFAM nous font payer leurs services avec nos libertés. Notre liberté de conscience, les laissant accéder aux détails de notre esprit pour nous manipuler de façon individualisée et automatisée. Notre vie privée et notre intimité, sans laquelle nous ne pouvons plus nous construire nous-mêmes. Ce contrat est illicite. En démocratie, personne ne peut vendre ses libertés fondamentales. Ainsi, le droit interdit désormais qu'un service soit rémunéré par des données personnelles. Pour récupérer nos données et nos libertés, le 25 mai, la Quadrature du Net a engagé, avec 12 000 personnes des actions collectives contre chacun des GAFAM. 12 000 personnes, ça veut dire que c'est 12 000 utilisateurs qui ont donné à la Quadrature du Net le droit de déposer plainte en leur nom contre ces fameux GAFAM. Donc c'est seulement après 6 semaines de campagne, qui a été évidemment dense et bien relayée, que la Quadrature a réussi à recueillir plus de 12 000 signatures pour attaquer ces GAFAM dans le cadre de l'entrée en application du RGPD. On en a aussi vaguement parlé, c'est le règlement général sur la protection des données qui est en place partout à travers l'Europe depuis très peu de temps et la Quadrature du Net s'appuie sur ce nouveau règlement pour lancer cette action en justice contre les GAFAM. On reviendra sur le RGPD à un autre moment, c'est un gros morceau, donc on en fera une rubrique à part. Donc voilà, la Quadrature s'adresse à ses soutiens. Merci à vous pour votre soutien, votre confiance et pour les relais nombreux de cette action. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont participé à l'écriture collective des textes de plainte. Nous avons officiellement déposé devant la CNIL, c'est la Commission nationale de... je vais retrouver l'acronyme tout à l'heure. Le 28 mai dernier, contre Facebook, Google, Gmail, YouTube, iOS, donc le système d'exploitation Apple, Amazon et LinkedIn, le réseau social professionnel. La première décision devrait être rendue un mois après le dépôt. Nous saurons alors quelle sera la suite des opérations. Alors effectivement, il y a déjà eu des réactions. On refera aussi, là je serai accompagné de mes camarades, on refera une rubrique pour vous tenir au courant des suites. Je voulais vous sensibiliser aussi aux différentes catégories que la Quadrature a mis en place. Donc il s'agit pour Google La Quadrature nous dit que Google multiplie sa présence dans nos vies. Il est la nouvelle télévision via YouTube. Il nous accompagne partout sous Android. Il filtre notre accès au monde sur son moteur de recherche, analyse nos messages via Gmail, vend des espaces publicitaires sur des millions de sites internet et espère demain s'immiscer dans nos interactions physiques via son assistant, notamment intégré dans Google Home. Voilà, je viens de revoir la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc c'est un organe d'État qui œuvre au respect de la bonne loi et donc au respect de l'application de ces fameux RGPD sur lequel la Quadrature s'appuie. Sur le site internet, donc là je vous ai lu l'entrée en matière contre Google, il y a bien entendu un petit onglet qui vous renvoie vers une analyse approfondie de tous les problèmes qui surgissent avec Google, là entre autres. Il y a l'analyse pour chacune des brèves lectures que je vais vous faire. C'est des analyses qui sont longues à lire et assez fastidieuses, donc je ne vais pas vous en faire lecture maintenant, ça n'aurait pas de sens. Contre Apple... La Quadrature nous dit que Apple est le plus riche des GAFAM. Il tire ses profits de la vente au public de ses appareils, les iPhones, les Macs, les iPads, équipés par des systèmes d'exploitation qui leur sont propres. Son modèle commercial repose sur l'enfermement de ses utilisateurs sur sa plateforme, les dissuader de rejoindre d'autres systèmes et les pousser à consommer toujours plus d'Apple. Dans cette stratégie, Apple fournit gratuitement aux applications venant sur sa plateforme un méga cookie permettant de tracer chaque utilisateur. Mais il le fait sans notre consentement explicite, ce qui est illégal. Pour rappeler très brièvement, un cookie, c'est un espèce d'espion qui va permettre à la page internet qu'on consulte de nous identifier et de nous suivre. Contre Facebook, la Quadrature nous dit que, alors que la nouvelle loi européenne, la fameuse RGPD, entre prochainement en action, Facebook campe sur ses positions et défend son modèle économique, annonçant que ses services resteraient inaccessibles aux utilisateurs refusant d'être ciblés. C'est ce contrat illégal, cet échange de services contre liberté, dont Facebook est l'illustration la plus flagrante qui est au cœur de nos actions de groupe. Au-delà de l'illégalité de son modèle, revenons aussi sur les conséquences concrètes de son activité sur nos libertés. Vous le savez, Facebook nous traque non pas seulement via son application, non pas seulement via son site internet et sa plateforme, mais aussi autour de tous les petits boutons Facebook que vous pouvez voir sur les sites internet que vous visitez à travers le monde entier. Contre Amazon, la Quadrature du Net ne nous dit rien en bref. Là, je vous laisserai aller voir la plainte et lire l'analyse, parce que c'est un trop gros morceau, et les méandres sont tels qu'il en devient difficile de comprendre quels sont les acteurs, quels sont les clients, etc. etc. On va passer à Microsoft. Nous sommes allés à la rencontre de Julie. Julie, donc la Quadrature, toujours. C'est une personne qui a travaillé pour une entreprise qui est chargée d'améliorer le fonctionnement de Cortana. Cortana, c'est l'assistant vocal de Microsoft. Et cet employé, cette travailleuse, sa journée de travail se résumait à écouter une à une les diverses paroles captées par la machine, volontairement ou non. Attention, il s'avère que le fonctionnement Cortana permet à Microsoft de l'activer à peu près quand il veut. Et du coup, quand il y a des requêtes qui sont mal comprises ou des requêtes qui sont un peu trop farfelues, ou tout simplement les simples requêtes pour avoir des statistiques sont écoutées par des employés de Microsoft. Et le témoignage de cette personne, Julie, est accessible aussi sur le site internet. Je vous laisserai aller l'écouter. Accrochez-vous parce que c'est très fort. Sachez que absolument tout ce que vous dites à vos assistants sont écoutés à un moment ou un autre par quelqu'un qui a des bonnes intentions ou pas, mais qui va forcément chercher à en tirer quelque chose. La Quadrature finit en nous disant très simplement, comme nous le rappelle Anthony Caselli ci-dessous, ce récit souligne exactement les pratiques très humaines, entre guillemets, que l'on retrouve en masse, en masse sous les miroirs trompeurs d'une soi-disant intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est intelligente que si on lui donne quelque chose. Alors je vous laisserai aussi aller lire cette plainte, cette plainte de la Quadrature contre Microsoft. Et tout à la fin du site internet, dont je vais vous rappeler l'adresse, c'est gafam.laquadrature.net. Vous avez un super outil pour faire vous-même vos affiches. Il y a Google n'est pas ton ami, ou alors Apple mauvais pour la santé, des petites choses comme ça. Vous êtes invité à faire vous-même vos textes, les imprimer, c'est du noir-blanc, ça va pas vous coûter hyper cher, et puis il y a les placards dessins un peu à droite à gauche autour de chez vous. Voilà, j'ai fait maintenant le tour de l'initiative de la Quadrature qui donc a déjà donné des résultats qu'on commentera très certainement pour le mois d'août. Et alors évidemment, je vous ai dit, ni Malorie ni Richard n'ont pu être là aujourd'hui, mais ils sont quand même là par contumace. Et je vais vous laisser maintenant avec donc les deux podcasts que j'ai fait avec eux. C'était il n'y a pas longtemps, j'ai vu Malorie la semaine passée et Richard il y a 3 jours, donc c'est quand même tout récent, tout frais. Je vous le rappelle, Malorie est une des membres du collectif Crypto Party Genève qui œuvre pour la sensibilisation de l'utilisation d'Internet, mais notamment aussi à comment anonymiser, par exemple, nos messages, comment les crypter, comment les rendre illisibles pour d'autres que pour son simple destinataire. Donc comment transformer une carte postale lisible par n'importe quelle personne en une enveloppe scellée dans laquelle il n'y aurait pas forcément des secrets, mais tout simplement des choses qu'on n'a pas envie de partager avec d'autres. Et Richard, c'est un des membres de l'association L'Aimant Libre, qui œuvre donc là beaucoup, de manière beaucoup plus générale. Il ne s'agit pas que de crypto-party, mais bien de la diffusion du libre à travers des install-parties, des cafés libres qu'ils organisent chez Utopie, un autre de nos petits chouchous, petite arcade, à Genève. On vous encourage à aller les voir, ils sont à la rue Lissignol, ils sont très ouverts, et ils vont faire un ordinateur aux petits oignons. Alors voilà, je vous laisse avec Malorie et Richard, et on reviendra à la fin pour une petite extra. À tout à l'heure.
Salut Malorie, comment vas-tu ?
Ça va bien et toi ?
Ça va bien, merci. Je le rappelle, tu fais partie du collectif de la Crypto Party Genève.
Oui.
On y reviendra tout à l'heure. On est là, on rappelle que c'est un podcast préenregistré. Donc on s'est retrouvés à l'avance pour produire ce petit podcast. Et on va parler aujourd'hui de l'action de la Quadrature du Net, l'action en justice de la Quadrature du Net contre les GAFA.
Voilà, c'est la Quadrature du Net, en fait, grâce à la nouvelle loi RGPD, donc le règlement européen pour la protection des données qui est entré en vigueur le 25 mai dernier, permet maintenant de lancer des actions en justice contre les différentes organisations, les différents services, les plateformes qui existent sur Internet. Et donc la Quadrature a lancé une grande campagne qui a duré 6 semaines pour que les citoyennes et les citoyens mandatent la Quadrature pour mener ce recours en justice devant la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté en France, parce que c'est cette commission qui va pouvoir, contrôle en fait l'utilisation qui est faite des données personnelles par ces différentes organisations, entreprises et services.
D'accord, alors explique-nous peut-être, la Quadrature, c'est un truc qui s'est monté pour ça, c'est un truc qui existait déjà avant ?
Non, alors la Quadrature, ça fait un moment que ça existe, je sais pas la date précise, mais ça fait plusieurs années qu'ils sont actifs, ils sont actifs justement dans la protection de la vie privée et des droits informatiques, et des droits fondamentaux à la vie privée à l'ère numérique. Et donc la Quadrature mène à côté de ça d'autres campagnes, d'autres actions de communication pour les côtés politiques, côté des citoyens, pour essayer un peu d'interpeller le monde sur les lois qui vont être mises en place par rapport au côté numérique en fait de tout ça.
D'accord, donc c'est un travail de sensibilisation, d'information, etc. Est-ce que pour l'instant on a déjà connaissance des conséquences éventuelles de ce que pourrait donner cette démarche ? Est-ce que la Quadrature va pour l'instant communiquer quelque chose autour de ça ?
Alors, les plaintes ont été déposées devant la CNIL le 28 mai dernier. Donc aujourd'hui, on est le 25 juin et la CNIL a un mois pour réagir. Donc normalement, ça devrait arriver bientôt. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il n'y a pas eu encore de réponse, mais ça devrait pas tarder. Donc il faut rester connecté sur le site dédié de la Quadrature qui est GAFAM, GAFAM.laquadrature.net. Et pour avoir les nouvelles de cette action en justice, de cette action collective qui a été menée par la Quadrature.
Alors, en ce qui concerne ce délai de un mois, est-ce que c'est possible que la CNIL ne réponde tout simplement pas, ou ils sont légalement tenus de rendre réponse dans ce mois-là?
Alors, normalement, justement, cette nouvelle loi RGPD les oblige à donner une réponse dans le mois, ils ont un délai d'un mois, quoi, pour répondre. Donc ils devraient répondre. Après, je connais pas toutes les subtilités du droit, c'est pas ma spécialité non plus, mais on devrait de toute façon avoir une réponse très prochainement.
Et très concrètement, est-ce que tu sais vraiment les points sur lesquels se base majoritairement la Quadrature pour mener cette action en justice?
Alors les plaintes, donc au total, il y a eu cinq plaintes qui ont été déposées, une par GAFAM. Donc GAFAM, je le rappelle, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc chaque plainte est très, très précise et très documentée. On retrouve tout sur le site de la Quadrature. Chaque plainte fait entre 20 et 25 pages, voire plus, donc il y a de la lecture. En gros, ça repose principalement sur l'utilisation qui est faite des données personnelles qui sont recueillies de manière illégale, parce que avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi RGPD, le consentement de l'utilisateur par rapport à l'utilisation qui est faite de ces données personnelles doit être libre et éclairé. Ça doit pas être une case à cocher au fin fond d'un écran de paramétrage après 30 clics pour pouvoir y arriver. Voilà. Donc, par exemple, par rapport à Facebook, par exemple, l'action qu'ils ont menée, la plainte qui, les griefs qu'ils ont en gros contre Facebook, c'est l'utilisation qui est faite de toutes les données personnelles. Donc, quand on parle de données personnelles, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être la localisation, où est l'utilisateur au moment où il utilise le service. Ça peut être le contenu du carnet d'adresses, le contenu des échanges qui a lieu entre les personnes, tout ce qui est métadonnées quand on poste des photos, toutes les histoires aussi de reconnaissance faciale qui existent. Enfin, ça regroupe vraiment une quantité incroyable de données. Et Facebook utilise ces données, elle les revend à des régies publicitaires, ça elle ne s'en cache pas. C'est pour ça que Facebook est gratuit, parce qu'elle fait son blé comme ça. Et c'est ça que dénonce la Quadrature. Donc là, je parlais de Facebook, mais c'est grosso modo plus ou moins la même chose pour les autres acteurs. Par exemple, il y a Google, YouTube, qui appartient à Google aussi, iOS, le système d'exploitation dans les iPhones, qui est aussi mis en cause, par exemple.
Est-ce que ça concerne aussi Android, ou est-ce que Android c'est en dehors de toutes ces procédures-là?
Alors Android, oui, alors Google, Android appartient à Google, donc Google est mis en cause aussi dans ces plaintes. Donc,
ouais. Donc Android par définition est
indirectement, voilà, oui, ça rejoint aussi Google. Ça. Ouais.
Ok, ouais. Quid des petits boutons j'aime de Facebook qui sont sur tous les sites internet, qui ont fait à une certaine époque un tollé? Est-ce que c'est quelque chose avec la RGPD qui va peut-être diminuer, voire même disparaître? Ou c'est quelque chose qui reste dans les limites de la RGPD?
Alors ça, alors il faut savoir que chaque petit bouton j'aime ou Twitter aussi, enfin tous les réseaux sociaux qui ont sur des sites qui n'ont rien à voir avec Facebook, hein, quand on va voir un site internet avec un site d'un média par exemple et qu'il y a les boutons j'aime, c'est comme s'il y avait un petit espion de Facebook qui était sur la page et qui regardait combien de temps on reste sur la page, quel type d'article on va lire, etc. Avec la RGPD, concrètement, je sais, enfin ça va changer les choses, mais je sais pas réellement dans quelle mesure ça va faire bouger ces pratiques-là.
D'accord, en ouais. Fait. Et oui, de ce qui peut éventuellement se déclencher en Suisse, est-ce que tu sais, est-ce que tu as autour de toi des gens qui seraient éventuellement motivés à lancer une telle procédure en Suisse? Est-ce que peut-être ce truc-là pourrait se faire ici? Et sous quelle revendication?
Alors, bah...
Où il n'y a pas assez de force pour l'instant?
Je ne sais pas.
c'est compliqué
de le dire quand ouais. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Non, franchement, je ne sais pas exactement ce qu'il est possible en Suisse par rapport à cette loi. Il faudrait, s'il y a des gens en tout cas qui nous écoutent et qui sont motivés pour lancer de telles actions, contactez-nous sur le mail cryptopartyge@protonmail.ch et on pourra voir ensemble ce qu'on fait. Mais là maintenant, comme ça, je sais pas.
Parce que c'est vrai que pour l'instant, rien, ça paraît très bateau à marier que les différences de langue entre régions, ça peut être quelque chose de
oui, bah, c'est une barrière, quoi.
Compliqué oui. À gérer. On invite d'ailleurs tout le monde à aller voir sur le site de la Quadrature, enfin sur gafam.quadrature.net, il y a les affiches sur lesquelles on peut inscrire nous-mêmes nos slogans qu'on a invité, à les télécharger, à les imprimer, à aller les placarder. Et c'est un pur bonheur de ce site internet. Pour revenir
L'action
en justice, voilà, merci. L'action.
L'action collective.
L'action collective. On a dit que ça regroupait 12 000 personnes. Est-ce que, quelles vont être les conséquences, les éventuelles conséquences concrètes de cette action-là? Est-ce que ça va peut-être éventuellement changer quelque chose
avant,
à nos utilisations?
Oui, avant l'entrée en vigueur de, de ce nouveau règlement européen pour la protection des données, les entreprises, généralement, qui ne respectaient pas les données privées des utilisateurs, pouvaient avoir une amende de maximum 150 000 euros. Aujourd'hui, avec le nouveau règlement, le montant de l'amende peut s'élever à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc c'est déjà un peu plus contraignant. Parce que bon, 150 000 euros pour Facebook, qui a 300 milliards, je ne sais pas combien de bénéfices par année, ça ne représente pas grand-chose, quoi. Donc là, les leviers sont un peu plus importants au niveau des amendes et ce genre de choses. Après, comment ça va être appliqué? Bah, voilà, c'est là aussi tout l'enjeu de la campagne de la Quadrature, c'est de faire pression sur la CNIL, qui, elle, a le pouvoir de faire appliquer cette nouvelle loi face aux entreprises. C'est la CNIL qui va réguler tout ça. L'action en justice collective qui est entreprise par la Quadrature du Net permet de faire pression sur la CNIL pour que ce soit effectivement mis en pratique, quoi, et qu'il y ait réellement des conséquences derrière. Donc on verra ce que ça donne, on est encore un peu dans le suspense, quoi. Mais si la loi est respectée, ça devrait bien se passer.
D'accord, ouais. Ben, on espère.
On espère.
Est-ce que, selon toi, comme ça, 12 000, c'est déjà assez? C'est déjà un bon chiffre? On est bien parti? Faudrait plus? C'est déjà une masse critique suffisante?
C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Après, plus, c'est toujours bien. Mais là, maintenant, c'est déjà malheureusement trop tard pour pouvoir participer à cette action en justice en tant que citoyen ou citoyenne. Mais on verra ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura aussi d'autres associations qui vont tenter d'autres actions en justice. On ne sait pas encore vraiment comment ça va se passer, quoi.
Et puis, bah, je crois qu'on l'a déjà assez dit sur les anciennes émissions, les anciens thèmes qu'on a abordés. On a déjà abordé les GAFAM en filigrane. La meilleure manière de s'en prévenir d'eux et de tous les dangers qu'ils colportent, c'est quand même de les éviter au maximum, donc de passer par des alternatives.
Voilà.
Pour ne citer que ça, on a Framasoft qui fait un super métamoteur de recherche, mais on a aussi Quant pour remplacer Google. Apple et Microsoft, ben, ma foi, on doit passer à Linux, quoi.
Voilà, on peut installer Linux, des logiciels libres pour commencer. On peut chiffrer ses emails aussi, par exemple si on utilise Gmail.
Voilà.
On peut chiffrer ses emails, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment on va chiffrer ses emails. Pour ça, il y a des sites internet qui sont très bien faits. Par exemple, il y a Email Self Defense. qui est un site qui a été créé par la Free Software Foundation. Vous pouvez taper email safe défense dans un moteur de recherche et vous tomberez dessus. C'est traduit en plein de langues et c'est vraiment un pas à pas hyper bien fait pour mettre en place concrètement le chiffrement des emails sur son ordinateur.
Trop bien.
Et voilà, après il y a des alternatives, il existe des choses, il faut regarder, il faut se renseigner, il faut demander à Internet.
Alors Internet est ton ami, mais Google ne l'est pas.
Attention. Voilà.
Ok, eh ben écoute.
Je voudrais juste préciser un petit quelque chose qui me paraît d'importance, c'est que dans cette action en justice qui est entreprise par la Quadrature du Net, la Quadrature ne demande pas spécialement de réparation financière aux GAFAM, dans le sens où pour la Quadrature, et c'est une idée que je trouve hyper belle, pour des raisons idéologiques, ils ne veulent pas demander de réparation financière parce que ça amènerait à une espèce de négociation du prix des données personnelles et donc au final de mettre un prix sur les données personnelles, alors que non, c'est des informations qui n'ont pas de prix, qui sont fondamentales pour la liberté des êtres humains à tous les niveaux, et donc la Quadrature se refuse à demander un montant pour ça.
D'accord.
Ça, je trouve ça chouette.
Et du coup, ce qui est demandé, enfin le... Dans les faits,
c'est que les différents acteurs, Google, Facebook et tout ça, changent leur manière de faire directement pour que les utilisateurs puissent amener leur consentement libre et éclairé quand ces entreprises prennent leurs données personnelles et qu'en gros, c'est une remise en question de leur modèle économique, finalement.
C'est de la réappropriation de données pures.
Voilà.
Exactement. C'est de la recherche de conscientisation de la population.
Aussi, oui, il y a aussi cette partie-là, je pense, dans la campagne de la Quadrature. Alors oui, la plainte à la CNIL est importante, mais c'est aussi dans une idée de conscientiser, d'en parler, quoi. Enfin, qu'il y ait quelqu'un qui prenne des actions et des mesures concrètes pour essayer de se protéger un maximum face à tout ça, quoi.
Super. Et puis si ici, dans la région genevoise ou un peu plus loin, on cherche des infos, des gens avec qui partager des idées, des gens avec qui échanger des conseils, on peut toujours venir voir la crypto-partie.
Oui, exactement. Alors on n'a toujours pas, enfin on n'a pas de... On n'organisera sans doute pas d'événement cet été, mais dès la rentrée, ça devrait recommencer. On n'a pas encore de date ni de lieu, mais ça devrait se mettre en route bientôt. On verra. Contactez-nous sur cryptopartyge@protonmail.ch. Et on pourra en parler, mais déjà nous envoyer des mails pour qu'on puisse aussi vous donner les différentes ressources qu'on peut avoir ou ce genre de choses. Après, il y a la CryptoPartyGE, mais il y a plein d'autres collectifs, il y a plein d'autres associations qui sont aussi actives dans cette optique de se protéger sur Internet.
Et puis on va les citer parce que c'est des copains et puis qu'on commence à les connaître bien. Si certains d'entre vous cherchent vraiment du matériel, du concret, physiquement, il y a l'arcade d'Itopi qui se trouve au combien rue Lissignol ?
10 rue Lissignol.
10 rue Lissignol,
oui.
C'est en plein centre de Genève, n'hésitez pas à aller les voir. C'est des gens super sympas, super ouverts, vous serez accueillis comme des rois.
Voilà, et si installer un Linux et tout ça, ça vous fait peur, ben vous pouvez y aller et eux, ils installent tout ça correctement et vous pouvez repartir avec votre ordinateur d'occasion qui est tout bien reconditionné sous Linux et c'est chouette.
Voilà. Voilà, on est là avec Richard. Bonjour Richard.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Ça va bien, il fait chaud, donc oui. Il est bien.
Ouais, ouais. Alors ils annonçaient une journée aujourd'hui de pluie. Et alors, on est sur la place Chateaubriand où on voit que les petits elfes s'affairent à monter les tentes, monter la scène. Et heureusement, on a de la chance, il fait beau. Alors voilà, je reçois Richard. Là, il faut que les gens entendent aussi qu'on a enregistré cette partie, qu'on s'est vu 3 jours avant la diffusion en direct. Et donc, que tu me rejoins pour discuter aujourd'hui autour de cette fameuse plainte pénale qui a été déposée par la Quadrature du Net contre les GAFA. Alors toi, tu es ici aujourd'hui pour représenter l'association L'Aimant Libre. Dis-nous peut-être deux mots de ce qu'est L'Aimant Libre et qu'est-ce que vous défendez.
Les mains libres, ils défendent les logiciels libres et proprement dit Linux, qui c'est la troisième option en face de Windows et Mac. Et nous, on installe bien sûr Linux sur vos ordinateurs dans les fameuses install parties qui ont la renommée Café Informatique Libre, qu'on réalise dans les bassins lémaniques. Quand je parle des bassins lémaniques, c'est les côtés français et suisse, parce qu'on est transfrontaliers tous.
Extra. Ensuite, moi, je voulais te demander comment l'Aimant Libre, en tant qu'association, en tant que groupe de personnes, se positionnait face à ce projet de la Quadrature du Net, qui était de remettre en question un peu l'hégémonie des GAFAM via un recours en justice.
Bien sûr, en tant que partisan des logiciels libres, on est contre les GAFAM, on est contre toutes ces manières de monopole, on peut dire, qui existent sur Internet. On ne peut pas nier que certaines choses y sont avancées, quelques autres ils sont, entre guillemets, mis, contrôlés par la justice, mais ce n'est pas suffisant, étant donné que les connaissances sur Internet, sur la technologie informatique, sont peu atteignables pour la jurisprudence, on va dire.
D'accord. Et est-ce que selon toi, cette initiative, donc elle touche un niveau national en France, on cherche donc effectivement, comme tu le disais, à remettre en question. Est-ce que tu crois qu'au niveau éventuellement lémanique, mais quand même transfrontalier entre la Suisse et la France, il y aurait éventuellement un travail à faire ici?
Bien sûr qu'il y a un travail à faire. Parce qu'il ne faut pas dire que pour l'Internet, les frontières n'existent pas. C'est essentiel, comment un oiseau il peut traverser la frontière sans demander, quelqu'un lui demande un passeport. Pareil, c'est l'Internet. Donc, au niveau lémanique, je veux parler, on peut faire des petites actions. Bon, peut-être je vais faire un exemple. Avant qu'existe Facebook, est-ce que quelqu'un écrivait à la porte de sa maison « j'ai mangé un repas » ?
Ah, d'accord. Ouais, avec la photo du... Ouais.
Ah, la photo du repas, non. On peut le considérer ridicule, peut-être, à cette action. Pourquoi Facebook et la Russie a sorti 7 défauts humains à tous, et pourquoi c'est tellement normal, et qui profite bien sûr la récolte des données, c'est un profit, c'est une valeur monétaire pour Facebook, et c'est la raison pour laquelle il y a un coût dans la bourse. Oui.
Et est-ce que tu penses, selon toi, alors mener des actions ici? J'entends bien, après c'est vrai que nous, bah, de notre côté à Libre Radio, on fait de la radio, peut-être que toi tu te rends plus compte à travers les cafés libres que vous faites avec l'Aimant Libre. Est-ce que tu penses qu'il y a la volonté, est-ce que tu crois qu'il y a assez de personnes qui seraient intéressées à mener un projet d'envergure comme celui de la Quadrature, mais à plus petite échelle? Est-ce que tu crois que derrière les actions que vous menez, il y a assez de monde pour réunir une équipe qui mènerait une telle action? Pour l'instant, c'est plutôt, bon, les gens, ils ont peur, ils savent pas. Comment tu le sens, toi?
Il faut dire qu'il y a peu de gens qui prennent conscience vraiment de la magnitude des problèmes qui génèrent les GAFA, hein, qui va générer, parce qu'à l'heure actuelle, on ne voit pas encore l'étendue des problèmes. Malheureusement, dans notre entourage, il y a peu de monde qui se sont concernés. Il y a même des réponses qui laissent un peu froid, dans lesquelles dit « je n'ai rien à cacher ».
Oui, la fameuse « mais c'est pas grave, j'ai rien à cacher ».
Voilà, donc c'est assez difficile d'avoir le temps de convaincre un groupe de personnes, on n'est pas assez nombreux à l'heure actuelle, sur les bassins lémaniques.
Et donc l'Aimant Libre propose, un peu à l'image de la Quadrature du Net, des alternatives à ces GAFA. Des alternatives qui sont libres, qui sont open source, comme on dit, et qui sont très efficaces. Alors, à quelqu'un qui, ben, voilà, pour la première fois, entendrait parler des GAFAM, et qui, tout à coup, prendrait conscience de la dangerosité que ça représente, parce que nous ici, toi, moi, Mallory, Philippe, qui était passé dernièrement aussi, on essaye de sensibiliser les gens. Mais si cette fois ça marche, quelles seraient les alternatives aux GAFAM que toi tu proposerais? Un bouquet comme ça, proposé par l'Aimant Libre.
Bon, les gars, on va séparer les chaque mot parce que c'est.
Ouais, alors, ouais.
Google, comme moteur de recherche, on a des alternatives. DuckDuckGo, c'est la première qui me vient en tête. Bien sûr, si on connaît les adresses où on y va, on tape directement l'adresse, on ne le cherche plus. Pas besoin. Si on parle de Microsoft, j'étais allé jusqu'à la fin.
Ouais.
De Microsoft, l'alternative c'est Linux.
Voilà. Apple, pareil.
Apple, c'est pareil. Donc voilà. Pour deux lettres, c'est pareil. Pour Facebook, bon, là c'est plutôt un thème social. Il y a une alternative libre qui s'appelle Diaspora, qui est bien conduite et qui garde la privacité des données. On dit ce qu'on publie, on contrôle tout. Clairement là. Le problème c'est qu'il est un peu caché derrière parce que les moteurs de recherche c'est le truc qui n'est pas assez populaire.
C'est ça. Alors ouais, c'est vrai que je sais pas si toi tu es utilisateur de Diaspora. Moi j'utilise via ce qu'ils appellent le pod Framasphere, parce que Diaspora est un réseau composé de sous-réseaux, c'est un réseau décentralisé comme on appelle ça. Donc et c'est vrai que sur Framasphere, depuis l'affaire Facebook et Cambridge Analytica, on a beaucoup de gens qui se joignent à Framasphere, parce que c'est vrai que c'est un réseau essentiellement francophone, et qui passent là quelques jours, une semaine, et qui très rapidement se rendent compte qu'en fait c'est pas... Alors le fonctionnement est grosso modo le même que Facebook, mais les gens ils vont pas pour les mêmes raisons. Et du coup, très rapidement les gens, moi j'en ai souvent sur mon fil d'actualité, ils s'ennuient. Ils trouvent que c'est pas assez percutant, pas assez... Voilà. Est-ce que toi tu ressens aussi ça sur le réseau Diaspora ?
C'est vrai que quand on va sur le réseau Diaspora, on suit plutôt déjà une idée, premièrement. Deuxièmement, on sait qu'il y a une institution ou un groupe de personnes qui sont là, donc on voudrait le suivre. Et ça, si on veut suivre un sujet personnel ou spécifique, oui. Diaspora, il répond à ses besoins. Mais si on arrive comme sur Facebook, on ne sait pas où je suis, je vais publier ce que je veux, et j'attends de voir qu'est-ce qui publie tout le monde. Non, ce n'est pas Diaspora.
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire que la différence entre Diaspora et Facebook, c'est que Diaspora, on y va pour chercher et pour trouver quelque chose qui serait un intérêt pour nous, alors que sur Facebook, on se pose dans Facebook et on attend que les intérêts nous viennent
tout
dessus. Et que du coup, on attend d'être inondé par ce que les gens disent, font. C'est un peu ça.
Oui, tout à fait.
Pardon. J'ai une petite dernière question pour toi. Je te prends peut-être un petit peu au dépourvu. Là, on a parlé donc des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ah bah, Amazon, est-ce qu'il y aurait éventuellement...
Ah oui, Amazon. Amazon, là, il faut appuyer les commerces de la locale.
Voilà.
Ça, c'est la réponse.
C'est ça la réponse, en fait.
Pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi polluer encore plus? Pourquoi essayer de détruire le commerce local? Si on peut avoir tout, on prend notre vélo, on peut aller à pied, faire une promenade et acheter quelque chose direct.
Alors, moi j'ai jamais, jamais, jamais rien fait sur Amazon. Je crois que j'ai jamais tapé le nom sur mon ordinateur personnel. Est-ce que les utilisateurs, enfin bref, est-ce que sur Amazon, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème à se dire, tiens, sur Amazon, je vais aller acheter un produit que je vais trouver pas loin de chez moi, mais je vais aller le chercher sur Amazon parce qu'il est moins cher. Est-ce qu'il y a ce genre de choses-là, ou est-ce que les gens vont essentiellement sur Amazon pour acheter quelque chose qu'ils ne trouvent pas à proximité de chez eux? Il y a les deux.
Ben, je pense qu'il doit avoir les deux.
D'accord. Parce que du coup, il y a quand même une question à se poser. Une personne qui utiliserait Amazon pour acheter quelque chose qui se trouverait près de chez lui, mais qui l'achète sur Amazon parce qu'il est moins cher, logiquement, il devrait quand même se poser la question de se dire, tiens, comment ça se fait que j'ai un intermédiaire supplémentaire entre moi et le fabricant qui est Amazon, j'ai une distance supplémentaire à parcourir, et j'arrive quand même à avoir un produit qui est moins cher que celui que je vais trouver juste à côté de chez moi. Il y a quand même un équilibre, comment je veux dire, une logique qui n'est pas du tout respectée. On est d'accord. Oui. Qu'il y a des intermédiaires supplémentaires, un trafic supplémentaire, mais que le produit est moins cher que celui qu'on trouve à côté, c'est qu'il y a quand même des restrictions de budget quelque part dans la chaîne de production.
Oui, tout à fait. Amazon, il a essayé, entre guillemets, de réduire les intermédiaires pour que les produits deviennent moins chers. Mais c'est assez fictif, il faut le dire aussi. Parce que vous dites, j'achète sur Amazon et il arrive chez moi. Mais on paye bien sûr les transports. Bah, sinon, si vous le prenez dans un autre endroit, relais colis ou autre, un point, il faut se déplacer. Donc pourquoi pas prendre le temps d'aller sur un commerce local.
Voilà.
C'est assez fictif aussi.
Voilà. Donc la réponse en fait, c'est sortez de chez vous et voilà. Favorisez la production locale.
Oui, très bien. Faites la vie sociale. L'ordinateur n'est pas le monde. Il y a une vie sociale à côté.
C'est un outil. Et oui, voilà, j'ai cette dernière petite question. On parle des GAFAM, Google, Amazon, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Est-ce que, selon toi, il ne manquerait pas une lettre à cet acronyme? Une ou deux ou trois, par exemple, on pourrait faire GAFAMA, Android. Est-ce que ça jouerait? Non, Android appartient à Microsoft?
Non, c'est Android et Google.
Android, c'est Google. Voilà.
Oui, c'est vrai que Google, là, par exemple, quand on attaque Google, on attaque à tous ses services, ce moteur de recherche, son navigateur qui recollecte des données, tous ces petits outils de la nuage qu'il offre de manière gratuite. Mais bon, quand même, il récupère toutes les informations que vous mettez. Ne soyez pas étonné que quand vous écrivez à une personne, et l'application même, il vous propose la réponse, comme on s'était vu la fois dernière.
Oui, cas pratique, ouais.
Donc, et Google, c'est Android, malgré que c'est entre guillemets un peu libre pour faire jouer la carte de « je suis un bon samaritain ».
Ouais.
Mais c'est pas tout à fait libre. On peut vivre avec un téléphone basique, pourquoi pas.
Ouais.
On n'a pas besoin d'acheter un smartphone, dernier mode. Ouais. Je ne veux pas dire non plus que pour les professionnels, il faut que c'est limite. Les professionnels, ils ont d'autres besoins. Mais nous, simples utilisateurs, non.
Extra.
Par contre, il y a une lettre que pourrait peut-être rajouter, mais malheureusement, ça va changer tout le temps. Ça va être la lettre T de Twitter.
Ah, Twitter. Ouais, ok.
Mais c'est un mouvement qui suit une courbe montant et descendant. Donc pour l'instant, on ne peut pas la mettre dans les gros lots.
On verra.
Bon, ça, c'est pour le peut-être pour le futur.
Instagram, Snapchat, ça n'a pas sa place là encore.
Instagram, le nom, c'est Apple.
Ah, d'accord.
Non, excusez-moi. Facebook, c'est Instagram. Il a récupéré Instagram, puis on revient au même coup, ce qui fait Facebook, et publier les photos.
Donc Facebook a Instagram, mais ils ont aussi racheté WhatsApp il n'y a pas longtemps.
Oui, aussi.
Ok, super.
WhatsApp, ouais. Ça c'est une option
et
aussi.
Fun. Ok, ça nous prépare un bel avenir tout ça. Écoute Richard, je te remercie infiniment d'être venu jusque-là. Rappelle-nous peut-être si jamais quelqu'un a envie de contacter l'aimant libre pour une conférence, une install, quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on peut te contacter, dis-moi.
Vous pouvez nous contacter via internet par www.leman-libre.org. Sinon, vous pouvez venir à notre petit chouchou, on va dire, Utopie, qui pourra vous renseigner pas mal. Et pour rappel, on fera une install party qu'on a renommée Café Informatique Libre. Au mois d'octobre à Bonneville et au mois de décembre, première semaine ou deuxième, ici à Utopie, Genève.
Super, ben ça on aura l'occasion de reparler octobre-décembre.
Ici John Connor, si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance.
www.libradio.org.
Libre Radio, c'est la résistance. Et la résistance, elle se fait aussi en lisant. Je vais finir ma rubrique en vous présentant mon nouveau petit chouchou littéraire de l'informatique libre. C'est un journal qui s'appelle Le Virus Informatique. Ils en sont à leur 36e édition. C'est un journal entièrement libre, financé entièrement par les lecteurs. Et qui, ben, malheureusement, ne peut pas assurer, lors de la sortie d'un nouveau numéro, ne peut pas assurer que le prochain puisse être financé. Donc je vous encourage, c'est un journal français, francophone, mais qui traite effectivement de l'informatique à travers le monde de manière générale. Je vous encourage, il est 2 euros à la vente en France et il est en Suisse à 3,60 francs. Alors malheureusement, moi, dans la région genevoise, je n'ai pas trouvé de distributeur qui fournisse le virus informatique. Si vous vous en trouvez, faites signe. C'est pas cher, c'est de l'information de grande, grande qualité. C'est une équipe super sympa que vous pourrez contacter sans trop de problèmes. Donc je vous encourage à aller vous renseigner sur le virus informatique. Et je vais vous lire donc 3 ou 4, ça dépend du temps que j'aurai, articles qui sont en lien direct avec, avec ce que je vous ai raconté. Le premier s'appelle « Crachat sur Amazon ». Si vous avez... Oula, il y a du vent. Si vous avez l'occasion de visiter les locaux d'Amazon et trouver une bouteille avec un liquide jaunâtre, attention, ce n'est peut-être pas du thé. James Bloodworth, auteur du livre Hired, sur les conditions de travail, s'est infiltré dans un entrepôt d'Amazon au Royaume-Uni. Il raconte que des travailleurs font pipi dans des bouteilles afin de ne pas rater les objectifs fixés, les toilettes étant trop éloignées, parfois de 4 étages. La société chronomètre en effet le temps de préparation des colis et impose des cadences. En parallèle, selon une organisation d'employés, 3/4 d'un échantillon de 241 personnes ont déclaré avoir peur d'aller aux toilettes à cause de la pression. Mais se plaindre de la sorte, c'est comme pisser dans un violon, car Amazon nie toutes les accusations. Nous préconisons à Jeff Bezos, dirigeant de la société et personne la plus riche du monde, entre parenthèses avec une fortune estimée à plus de 112 milliards de dollars. Donc nous recommandons à cette personne de renvoyer tout le monde et d'utiliser des robots à la place. Les robots n'ont pas besoin d'aller aux toilettes et les chômeurs pourront passer, eux, plus tout le temps qu'ils veulent aux toilettes. Voilà pour le premier article. Le deuxième article s'appelle « Quand le fisc vous YouTube ». Donc on sait YouTube, comme vous l'a dit Richard tout à l'heure, YouTube appartient à Google. Donc quand le fisc vous YouTube, si vous visitez le site web de la présidence de la République française, vous serez accueilli par un énorme message « Suivez-nous sur Facebook ». Et vous pourrez vérifier le code HTML fait par des appels vers les domaines de Google, Twitter et Facebook. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ces sociétés, donc Google, Twitter et Facebook, peuvent récupérer vos données lors de votre visite sur le site internet de l'Élysée. Certes, encore faut-il avoir envie de lire ce qui y est publié sur ce site. Par contre, si vous êtes contribuable, vous serez quasiment obligé d'aller sur le site web des impôts pour faire votre déclaration en ligne. Et là, la Direction générale des finances publiques imposait de consulter jusqu'au bout une vidéo YouTube. Du coup, Google en savait un petit peu plus sur vous. Lorsque les médias ont commencé à râler, plutôt que de mettre la vidéo en option, l'administration a décidé de ne plus imposer que 5 secondes de visionnage. Donc il fallait quand même regarder 5 secondes, ce qui veut dire que vos informations étaient quand même récoltées, malgré les 5 secondes. Or, il aurait été possible d'utiliser un service ne pistant pas les internautes, Framatube par exemple. Mais à ce sujet, l'administration répond « Bien sûr, on a regardé cette solution, mais elle pose d'autres questions d'ordre technique et de confidentialité. Plus que chez Google, vraiment, on a du mal à y croire. Rappelons que Google est une société accusée de frauder le fisc et que de nombreux médias en ligne qui s'en sont pris à l'administration fiscale dans cette affaire offrent eux aussi les données de leurs visiteurs à Google. » Voilà, ça c'était pour le deuxième article et je voulais vous en lire aussi un petit troisième, alors qui là ne concerne pas directement les GAFAM. On vous avait dit qu'il y avait un moteur de recherche nommé DuckDuckGo sur lequel on vous encourage à aller pour comme étant une alternative à Google. Alors voilà les actualités. Pan sur le bec de DuckDuckGo. Dans le virus informatique 28, nous vous avons conseillé d'utiliser DuckDuckGo à la place du moteur de recherche Google. Ce métamoteur, qui se présente comme respectueux de la vie privée, reprend en fait les résultats de Bing, Yandex, etc. S'il tient sa promesse et ne fait pas de tracking de ses utilisateurs, il ne serait pas bien difficile à des enquêteurs gouvernementaux états-uniens d'obtenir des informations. DuckDuckGo est basé dans leur pays et utilise le cloud Amazon pour fonctionner. Les données sont donc accessibles directement chez Amazon. à moins d'un système de chiffrement pas évoqué par DuckDuckGo. Donc ça veut dire que DuckDuckGo ne met pas en place un système de chiffrement qui pourrait éviter de laisser nos données accessibles sur Amazon. Voilà. Eh bien, c'est les trois petits articles que je voulais vous lire. Il y en avait un quatrième, mais il concerne vraiment plus directement du tout ce qu'on a raconté. Donc voilà, méfiez-vous même de DuckDuckGo. Moi, je ne sais plus quoi vous conseiller à l'heure actuelle. Je ne sais plus quoi vous dire vraiment. Il y a toujours Framabee, qui est aussi un métamoteur de recherche, qui est très intéressant, mais qui fonctionne avec des paramètres par défaut, qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus optimaux pour vous en tant qu'utilisateur à titre privé, personnel. Évidemment, il y a la possibilité d'aller changer les paramètres, mais ça veut dire que du coup, vous affinez votre utilisation, donc que potentiellement vous donnez plus d'informations. Et ça, alors ça, c'est des données techniques sur lesquelles on ne peut absolument pas avoir de prise, parce que c'est des choses qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'Internet. Quoi qu'il en soit, voilà, renseignez-vous, lisez le virus informatique, faites attention à l'utilisation que vous avez d'Internet, faites attention à ce que vous mettez sur Internet. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à nous contacter à Libradio via info@libradio.org. Je ne sais pas si ici autour, on a encore quelques minutes, il y aurait des questions qui surgissent, je ne crois pas. Et quoi qu'il en soit, il y a des acteurs qui sont ici, qui sont présents, qui sont pas loin de chez vous et qui sont des pontes qui sauront vous renseigner. Je pense à la Cryptopartie Genève, je pense à lemanlibre.org, etc., etc. N'hésitez pas à nous solliciter et soyez prudents. Bonne fin de semaine à vous tous, bon dimanche et puis on se retrouve la semaine prochaine pour aller je ne sais plus exactement où. On verra, on se tient au courant via le site internet, n'hésitez pas à nous contacter info@libradio.org. N'hésitez pas à venir sur le site du festival Château Bruyant, qui se tient encore ce soir jusqu'à 2h et demain jusqu'à minuit. Et voilà, sur ces bonnes lectures et ces bonnes paroles, on vous embrasse, des bisous.
Dans les prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier. Personne ne vint le voir, landi-di-di-di-dan, personne ne vint le voir que la fille du geôlier, à la fille du geôlier. Un jour il lui demande, landi-di-di-di-dan, un jour il lui demande, oui que dit-on de moi, que dit-on de moi. On dit de vous en ville, landi-di-di-di-dan, on dit de vous en ville, que vous serez pendu, et vous serez pendu. Mais il faut qu'on me bande, l'an, mais il faut qu'on me bande, déliez-moi les pieds. La fille était jeunette, l'an, la fille était jeunette, les pieds lui a déliés. Le prisonnier alerte, l'an, le prisonnier alerte, dans la Loire s'est jeté. Dès qu'il fut sur les rives, landi-di-di-du-dan, dès qu'il fut sur les rives, il se prit à chanter. Je chante pour les belles, landi-di-di-dan, je chante pour les belles, surtout celles du geôlier. Si je reviens à Nantes, oui je l'épouserai. Dans les prisons de Nantes, landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-landi-